Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Jean Houry s'est éteint en 2014. Comme Félix Guattari, Jean Houry est mort à La Borde, là où il avait débarqué avec ses fous en 1953. De ce qui n'était alors qu'un château en ruine, il aura fait le haut lieu de la psychothérapie institutionnelle. Une aventure qui avait commencé pour lui en 1947, à l'hôpital de Saint-Alban, aux côtés de François Tosquelles. Même si La Borde avait fait des petits, et la psychothérapie institutionnelle influençait toute la psychiatrie depuis l'après-guerre, Jean Houry aura vécu assez longtemps pour voir la régression à l'œuvre. Il y a une destruction véritable du champ même de la psychiatrie, disait-il déjà en 98. La suppression du diplôme d'infirmier psychiatrique, c'est le plus gros scandale de ce siècle. En 1974, pour l'émission Le Point du Septième Jour, un peu comme un anthropologue vers des peuplades inconnues, Jean Rabaud partait à la découverte de Houry et de La Borde. Les rayures des zèbres qu'il interrogeait ne lui permettaient pas toujours de pouvoir les classer à coup sûr du côté des fous ou de l'équipe soignante. Le meilleur indice, peut-être, du bien fondé de la maxime à laquelle Jean Houry est toute sa vie resté fidèle, soigner les malades sans soigner l'hôpital, c'est de la folie.
La psychiatrie classique, on sait ce que c'est. Cela consiste, dans les cas jugés graves, à tenir le malade enfermé dans un établissement de soins et, une fois là, à travailler à sa guérison dans la mesure où cela est jugé possible.
L'antipsychiatrie, née récemment, s'insurge, elle, contre le système de ségrégation et de contraintes exercées sur le malade mental.
Des mouvements encore plus récents, comme le groupe d'information sur les asiles, mettent en cause l'existence même du médecin psychiatre. Ils rendent responsable des troubles mentaux la société. Pour eux, le malade ne doit être traité que par ses pairs.
Nous ne prenons pas parti. Ni psychiatrie, ni antipsychiatrie, nous voulons montrer ce qu'est un exemple de ce qu'on appelle la psychiatrie institutionnelle.
Le Point du Septième Jour, une maison sans clôture, la clinique de La Borde.
À l'orée de la Sologne, à quelques kilomètres du château de Chambord, des environs boisés gardent de la foule une bâtisse du style château banal du tournant du siècle, avec laquelle voisinent des bâtiments de l'allure la plus commune. Entre qui veut, l'entrée n'est pas fermée, à l'intérieur un va-et-vient de gens entre lesquels il est impossible de distinguer le patron de l'employé d'administration et l'infirmier du pensionnaire. Du reste, ici, il n'y a pas d'infirmier, il y a des moniteurs. Et le directeur, qui est médecin, on ne l'appelle pas monsieur le directeur, on ne l'appelle pas docteur, on l'appelle tout simplement Houry, parce que c'est son nom de famille. Houry, donc, puisqu'Houry il y a, tient, avant de définir les règles qu'il guide, à restituer l'élaboration de ces règles à ses devanciers.
Le principe, d'abord, c'est pas un principe très très original à La Borde. L'application, disons, de toute une doctrine qui est née ailleurs, en particulier en France, à l'hôpital de Saint-Alban, pendant l'occupation et la libération. Or, le principe, c'est, comme on disait à cette époque-là, d'humaniser au maximum la vie à l'intérieur de l'hôpital, d'une part, pour mettre les gens dans une situation bien plus personnelle, pour les personnaliser, et pour essayer de voir avec eux quels étaient leurs problèmes, aussi bien pour l'avenir que pour la vie quotidienne.
La première chose qu'on remarque quand on arrive ici, c'est qu'il n'y a pas de clôture, ou si l'on veut, que des clôtures extrêmement faciles à franchir. Est-ce que tout le reste est à l'avenant ?
Les clôtures, ce n'est pas forcément les clôtures matérielles qui sont les plus néfastes. Enfin, le but, c'est que tout le reste soit à l'avenant. Mais ce qui n'empêche pas quand même une différenciation maximum des gens les uns vis-à-vis des autres. On pourrait dire que ce qu'on veut mettre en place, c'est surtout lutter contre une ségrégation. La ségrégation de l'hôpital lui-même vis-à-vis de la société, qui reste toujours un petit peu une ségrégation quand même, mais surtout lutter contre la ségrégation intérieure. c'est-à-dire de tous les systèmes qui se développent, qui cloisonnent l'espace hospitalier, dans le sens traditionnel du terme, quoi. Par exemple, dans un hôpital qui est plus vaste qu'ici, on a toujours lutté pour essayer de supprimer, enfin de supprimer, pas simplement supprimer, mais supprimer dans les faits, par exemple les quartiers d'agités, les quartiers de gâteux, etc., qui sont vraiment le fléau de la vie, disons, asilaire.
Vous recevez toutes sortes de malades, depuis les simples déprimés, dans la mesure où ils ont besoin d'être hospitalisés, jusqu'aux agités et aux furieux dont vous venez de parler. Mais il n'y a pas de problème, vous les mettez les uns côte à côte, vous les mettez ensemble et il n'y a pas de dégâts.
Oh, ce qu'on veut démontrer par là, quand vous parlez d'agités et de furieux, c'est que la psychothérapie institutionnelle, qui date justement de cette époque-là, a essayé de montrer dans les faits que l'agitation, le gâtisme ou la fureur, etc., quoi, sont des tableaux morbides qui sont souvent provoqués inconsciemment par les dispositions aussi bien architecturales que les préjugés du personnel et la façon d'aborder, disons, ce genre de personnes que sont les malades mentaux, quoi.
Autrement dit, vous cherchez à faire régresser cette psychose de second degré aux manifestations d'une psychose au premier degré qui, elle, serait plus facile à guérir.
C'est peut-être pas plus facile à guérir, mais c'est tout au moins essayer justement d'enlever ce qu'on peut appeler les artefacts vis-à-vis de la maladie mentale.
Artefacts.
Artefacts, c'est-à-dire des symptômes créés par les réactions au milieu. Est-ce qu'on peut appeler dans une autre catégorie, disons l'hospitalisme par exemple, mais quelque chose de bien plus, disons la pathologie asilaire, quoi. Qui résulte d'un mode de vie particulier, de contention, de non-liberté.
Alors très précisément, comment est-ce que les choses se passent? Il faut bien, puisqu'il y a vie en commun, que les pensionnaires ici se plient plus ou moins volontairement à, au moins disons, certains horaires, au moins certaines pratiques. Il n'est pas plus tolérable qu'ils fassent rigoureusement ce qu'ils veulent à longueur de journée que ça ne le serait, disons, dans un internat de gens qu'on appelle normaux.
Donc, il est évident que on ne peut pas parler de faire n'importe quoi à n'importe quelle heure, etc. Et c'est même plus compliqué à organiser la structuration, disons, de la journée, enfin, l'emploi du temps de la journée, apparaît ici, comme dans ce genre de domaine de la psychiatrie, comme une sorte d'ordonnance d'emploi du temps et d'ordonnance de responsabilité suivant la personnalité de chaque malade. Bien, c'est d'essayer que chaque personne, à son niveau, soit mise dans un réseau, disons, de responsabilités, aussi bien matérielles que de possibilités de rencontres pour sortir un peu de son isolement. Or ça, il faut donc créer des occasions au maximum. Et c'est dans la création de cette occasion qu'il y a la nécessité d'organiser chaque jour un nombre de réunions très très important, et que les gens soient répartis dans des petits groupes qui soient, disons, des petits groupes qui soient vivables, dans lesquels les gens puissent parler parce qu'ils se connaissent. Des petits groupes, on peut parler par exemple de groupes de 10 ou 15 personnes, quoi.
Et quels sont ces petits groupes? Ils ont un objectif, on y fait quelque chose de précis.
Les petits groupes, d'une part, il y en a des quantités de sortes. Bien sûr qu'il y a des petits groupes où on n'y fait rien. Ce qu'on appelle des petits groupes de parole, qui ont une qualité particulière, qui est bien plus la qualité de l'expression, de pouvoir parler à d'autres. Mais enfin, ça ne marcherait pas si en même temps il n'y avait pas des groupes basés sur des activités et des responsabilités.
Illustration de ce qui vient d'être dit, un moniteur nous explique le fonctionnement de son groupe.
Le groupe où je suis et où est mon ami doit aujourd'hui assurer un jour de cuisine avec le cuisinier. C'est pourquoi nous sommes là, moniteurs de ce groupe et pensionnaires, à renforcer les effectifs de cette cuisine. Ce qui permet aussi, entre autres, d'éviter qu'il y ait des fiefs fermés. Fiefs fermés qui veut dire conflit avec les autres membres du personnel et bien entendu, partant, avec le pensionnaire. Les groupes qui se constituent ne se constituent pas comme ça, c'est quelquefois par affinité. Il faut savoir ouvrir un groupe et le fermer. Un groupe, il y a des groupes qui sont vastes et d'autres qui doivent rester petits. Mais les activités de la clinique ne sont pas réservées à quelques groupes en priorité. Toutes les activités sont ouvertes à tous les groupes. On en arriverait sinon à créer des pavillons complètement isolés les uns des autres.
C'est pour ça qu'on a repris ici l'idée fondamentale qui existait à Saint-Alban, c'est de créer à l'intérieur même de l'établissement un réseau social à partir de ce qu'on a appelé un club thérapeutique. Alors le club thérapeutique, c'est quelque chose qui a pris une ampleur énorme ici, qui est un organisme autonome au point de vue juridique, organisé par le personnel et les malades. Tous les malades en font partie. C'est une association de 1901 qui passe contrat avec l'établissement pour développer à l'intérieur toute la vie sociale. Ça permet de pouvoir justement lutter contre une oppression qui existe toujours dès qu'il y a mise en place d'un établissement avec hiérarchie et avec un but quand même de rendement commercial ou autre, quoi.
En somme, vos rapports avec les malades sont fondés, vous venez de le dire, sur le contrat, et la hiérarchie, autant dire, est inexistante. Il n'y a ni infirmier chef, ni infirmier.
Non, on ne peut pas dire que la hiérarchie est inexistante, elle est transformée, dans le sens que c'est une hiérarchie bien plus fine et bien plus multiple ici, et qui est basée sur des strates, disons, plus collectives. Par exemple, il est certain qu'il n'y a pas de surveillant chef. Par contre, il y a des instances collectives qui sont renouvelées tous les 2-3 mois, constituées de plusieurs personnes qui sont des moniteurs et des médecins de l'établissement, mais qui ont comme fonction collective d'assurer, disons, une sorte de, non pas de surveillance, mais de coordination de toutes les tâches, de toutes les fonctions, etc., quoi. Or ça se répète à différents échelons et en rapport avec les différents domaines qui sont en question. Par exemple, là, il y a aussi bien la gestion économique que la gestion médicale, que la gestion animation proprement dite.
Votre prénom, mademoiselle ?
Geneviève.
Quelle est votre activité dans la maison ?
Eh bien, le matin, je fais une permanence. Ça m'embête de dire ça dans le micro, la barbe.
Mais pourquoi ?
Je fais une permanence à la caisse de dépôt des pensionnaires.
Caisse de dépôt des pensionnaires, ils font des dépôts ?
Oui, et ils déposent l'argent de leur pension qu'ils leur est donné par leur famille. Et le matin, ils peuvent prendre l'argent dont ils ont besoin pour la journée ou s'ils ont des courses à faire en ville ou un truc comme ça.
À quoi peuvent-ils le dépenser ? Vous dites qu'ils peuvent aller en ville ?
Ils peuvent aller en ville, oui, s'ils ont des courses à faire. Et ils peuvent le dépenser aussi ici au bar où il y a une permanence de cigarettes aussi, des choses comme ça. Et il y a des boissons, bars, puis ils peuvent aller en ville quand ils veulent.
Et vous avez l'impression que quand ils disposent d'une certaine somme d'argent, ils vous la remettent tout entière de manière que vous la répartissiez de journée en journée.
Ah ben ça dépend. Et il y en a aussi qui ont, ils ont des comptes. Il y en a qui ont des comptes en banque ou des comptes à la caisse d'épargne. Mais enfin, ils peuvent avoir l'argent dont ils ont besoin ici, quoi. Ils peuvent aussi avoir tout leur argent ici si ça leur plaît.
De toute façon, sortir d'ici leur est entièrement autorisé à longueur de journée.
Ah oui, quand ils veulent, oui.
Bon, alors, ceci est une partie de votre activité, c'est la seule ?
Ben non, je fais aussi du standard en fin d'après-midi. Il y a un groupe de gens qui font... On a un contrat de travail pour tenir le standard, un groupe de pensionnaires. On fait une grille, en principe, une fois par semaine. C'est-à-dire, on se distribue le travail journée par journée. On fait 2 heures par personne ou 1 heure, ça dépend des cas. Des gens, si on a envie de faire 1 heure ou 2 au standard...
Un contrat de travail symbolique ou comporte une rémunération effective?
On a une rémunération de 100 francs par semaine.
Oui.
Pour un groupe de personnes.
Cette administratrice à l'esprit clair, qui sait faire ses comptes et qui sait tenir le standard téléphonique avec exactitude, nous éprouvons une certaine surprise quand elle répondra à une nouvelle question. À quel titre êtes-vous ici?
Ben, je suis pensionnaire.
Ce qu'on appelle d'ailleurs ici malade?
Ben oui.
Bon, alors, faire des comptes comme vous le faites, répartir équitablement ou normalement de l'argent de poche tous les jours, tenir le standard, ça donne à penser que, mon Dieu, que le fonctionnement cérébral est somme toute satisfaisant, non?
Mais je n'ai pas du tout envie d'entrer dans les détails de mon état de santé.
Les malades eux-mêmes font partie d'autres commissions et ont en effet la responsabilité de gestion économique, mais de ce qui est de l'ordre du club et non pas de l'ordre, disons, de la clinique proprement dite. C'est pour ça qu'il y a une séparation importante à faire entre l'exploitation clinique et la bonne marche d'une société intérieure qui est juridiquement fondée sur une association, 1901.
Et si l'on se réfère aux catégories qu'on admet classiquement comme divisant les malades mentaux, disons de l'agité, du schizophrène jusqu'au simple déprimé, il n'y a pas de problème à les réunir ensemble. Et en définitive, ce qu'on appelle les guérisons, ça marche tout aussi bien.
Ça marche, à mon avis, même mieux, parce que de vouloir, justement, ça fait partie de ce programme de ne pas faire de ségrégation à outrance. Par exemple, de réunir uniquement des schizophrènes entre eux, on a bien plus de difficultés d'animer un groupe que si on a le soin de choisir d'une façon bien plus différenciée les catégories de malades, par exemple des schizophrènes, des dépressifs ou des éthyliques, etc., donne un groupe très différent au point de vue de sa dynamique propre. C'est là-dessus qu'insistait sur l'hétérogénéité des groupes, insistait à juste titre, il me semble, Toscaïès, quand il a mis ça en place à Saint-Alban.
Mais vous venez de parler de Saint-Alban, et il résulte de ce que vous venez de dire que l'expérience de Saint-Alban remonte à un bon quart de siècle. Comment expliquez-vous que les cliniques comme Saint-Alban ou comme la vôtre, soit resté jusqu'à présent en aussi petit nombre?
Ça, c'est difficile à dire, parce que Saint-Alban, d'ailleurs, qui est un hôpital public, la doctrine ou la théorie même de la psychothérapie institutionnelle, hein, dont en effet, un des premiers représentants était Saint-Alban, n'y a pas eu que là. Il y a eu quand même d'autres hôpitaux, ou tout au moins des services partiels, enfin, d'autres hôpitaux, qui ont développé de plus ou moins complètement ce genre de technique. Par exemple, le problème des clubs thérapeutiques, au bout d'une dizaine d'années d'existence, par exemple à Saint-Alban, puis à La Borde, ça a été recommandé, si on peut dire, par le ministère, dans les circulaires de février 58, recommandé que les hôpitaux développent à l'intérieur de leur quartier des clubs ou des associations type club thérapeutique qui avaient été expérimentés ailleurs. D'autre part, il est certain qu'il est très difficile dans les structures traditionnelles, non pas simplement au point de vue architectural, mais dans ce qui est mis en place au point de vue hiérarchie, au point de vue de ce cloisonnement extraordinaire qui existe dans toute administration, on voit bien qu'il est très difficile de développer des techniques de cet ordre-là. On va dire que c'est une résistance, bien sûr, de la société à quelque chose qui est de l'ordre, enfin, un petit peu de l'introduction de la psychanalyse, pourquoi pas, du freudisme, à l'intérieur des hôpitaux, pour remettre en question les bases mêmes et la façon de traiter les malades. On peut dire que la psychothérapie institutionnelle, en partie, c'est l'introduction de Freud à l'intérieur des hôpitaux. Et là, on se trouve, de même que Freud lui-même s'est trouvé au début du siècle, avec une résistance massive, et d'autant plus intense là que la résistance, elle est inscrite dans les pierres, dans l'architecture, dans les préjugés, dans la hiérarchie, etc.
Posons quand même une question très précise et qui a son importance. Votre prix de journée, est-ce qu'il est réellement différent de ce que peut être un prix de journée dans un hôpital psychiatrique qui fonctionne à la mode traditionnelle?
Je constate que le prix journée est inférieur ici à celui des hôpitaux psychiatriques, même le plus proche d'ici, quoi.
Mais le malade organisé à sa guise en différents groupes tant qu'il demeure à la clinique, un jour vient où il souhaite s'en aller, un jour vient où elle estime en état de sortir. Cette sortie, elle est envisagée, elle est préparée à l'avance.
On essaye, déjà au cours de l'hospitalisation, de le préparer à la sortie, c'est-à-dire d'envisager avec lui, dans son groupe, ce qu'il fera s'il y a des problèmes de réinsertion professionnelle, sociale, les problèmes de chambre, etc.
Mais il doit y en avoir qui sont impatients de sortir, non?
Oui, il y en a, pas tous.
Ça n'est pas la majorité?
C'est très variable. Il y a en général, il y en a beaucoup qui aiment rester ici.
Et ils sont trop bien ici, trop en famille.
C'est-à-dire que ça dépend des cas. Mais enfin, en général... Comme on parle déjà de ces problèmes de réinsertion, enfin, tout au cours de l'hospitalisation, c'est même, on n'en parle pas, ça fait partie d'un tout. Il est évident que ça vient quand même un peu, on pose le problème de la sortie dès l'entrée. Alors donc, ça se prépare dès l'entrée. Et alors, quand le malade est prêt à sortir, on en parle avec lui, on essaye de voir quels sont les moyens de travail, soit à Paris, soit dans la région. Dans la région, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a peu de débouchés. Et les problèmes aussi d'entrer dans des centres de réadaptation ou de formation. Alors on a créé d'ailleurs, il y a une espèce de commission de reclassement qui doit refonctionner, là, qui ne fonctionnait pas très bien ces temps-ci, mais qui va refonctionner. En liaison avec un groupe de moniteurs qui vont à Paris, qui font un travail sur Paris sur le plan du reclassement, en liaison avec des agences nationales de l'emploi, qui cherchent des chambres, qui revoient les malades s'ils ont des problèmes de réhospitalisation, de médicaments. Et alors on est en relation avec des psychotechniciens qui sont d'accord pour venir nous voir, pour nous aider justement à poser les problèmes d'entrer dans un FPA. C'est quand même assez compliqué. Et puis alors il y a une liaison aussi sur Blois avec un office social de la Croix-Marine.
Est-ce que vous avez la possibilité de mesurer ce que j'appellerais les guérisons, parce qu'après tout, il n'y a pas d'autre mot. Autrement dit, avez-vous la possibilité de vous rendre compte, primo, de la réinsertion professionnelle des personnes qui sont sorties d'ici, deuxièmement, de leur vie privée dans la mesure où elles s'organisent de façon satisfaisante, et troisièmement, de leur état d'esprit?
Ça ne se mesure pas, c'est difficile à dire qu'on mesure.
Mais si vous gardez le contact avec eux, oui, vous devez quand même en avoir une idée.
Bien sûr, on le sent de toute façon, comme ça se fait tout au long de l'hospitalisation, on reprend des contacts avec les familles, avec l'entourage. Effectivement, quand le malade sort, on a déjà mis en place tout un tas d'appuis. Effectivement, on sait quand même quand le malade sort qu'il peut sortir, tout au moins qu'on peut essayer de le faire sortir. Mais c'est pas ce qu'on appelle une guérison.
Non, parce que la question qui est posée là est une question plus générale, il me semble. Parce que de tels malades, quand on les prend en charge, on les prend en charge pour une durée illimitée. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester hospitalisés pendant une durée illimitée. On peut dire que mon rôle, à moi, c'est surtout, en fin de compte, de faire des consultations externes, c'est-à-dire d'empêcher les gens d'être hospitalisés. Mais les gens que je vois en consultation externe, qu'on peut faire des traitements de toutes sortes, biologiques, psychothérapiques, etc., ils s'améliorent la plupart du temps. Mais je ne suis pas surpris si, par exemple, 10 ans plus tard, on revoit le même malade. Autrement dit, cette prise en charge fait qu'il y a une continuité. Une continuité, non pas des soins, mais d'une relation. Et c'est cette continuité de relation qui fait que, depuis qu'on fonctionne, on a à peu près 10 ou 12 000 maintenant, relations continues, disons depuis 20 ans. Or, il suffit de tirer une fiche pour savoir où ça en est, etc. Si bien qu'on n'a pas, bien sûr, une observation, qu'on pourrait dire, policière vis-à-vis de ces gens-là. Mais ils savent que si ça s'est bien passé, aussi bien leur séjour que la relation, disons, de consultation ou autre, ils sauront qu'il y a un lieu, un endroit, des personnes, des groupes qui peuvent les accueillir quand ça ne va pas. Alors c'est la chose, il me semble, la plus importante. Et c'est souvent de savoir qu'on peut revenir quand ça ne va pas, qu'on peut revenir quelque part, qui évite souvent de revenir, parce que ça donne une certaine assurance pour le restant de l'existence. Naturellement, on constate qu'il y a des gens qui sont complètement rétablis, qui fonctionnent parfaitement, qui ont un travail, une famille, même des gens qu'on ne s'y attendait même pas, mais qui sont sortis d'un état extraordinairement régressif.
Mais pardonnez-moi, mais est-ce qu'on le constate du fait qu'ils n'éprouvent plus le besoin d'avoir des rapports avec vous, ou bien parce qu'ils ont des rapports avec vous et qu'ils vous dépeignent leur état d'esprit, ou que vous constatez leur état d'esprit?
Non, c'est souvent des rapports indirects. On apprend par un tel, étant donné qu'on fonctionne ici en groupe, c'est pas forcément des rapports directs. Mais on apprend qu'un tel va bien, qu'il a vu quelqu'un. C'est par hasard souvent qu'on apprend ça. Bien sûr, quand il revient, souvent ils reviennent simplement pour nous dire « tiens, ça va bien », etc. Une occasion de voyage ou de vacances, etc. Ils passent par ici pour nous tenir au courant. On garde en général, des relations de sympathie, quoi.
Un test, en tout cas, est possible. Le malade que vous allez entendre a pu comparer la clinique de la Borde avec un centre de soins d'un type différent.
J'ai séjourné d'abord à la Borde et ensuite dans 2 hôpitaux psychiatriques.
Mais c'est donc que vous aviez quitté la Borde volontairement ?
J'avais quitté la Borde volontairement. On m'avait donné une permission de détente pour aller dans ma famille, dans mes amis, voir mes amis, enfin me promener.
Et vous êtes fait porter déserteur ?
J'étais porté déserteur, oui.
Bon, alors
Eh bien, donc j'ai fait un séjour d'un mois et demi à Villejuif.
Vous avez fait le séjour d'un mois et demi à Villejuif parce que vous êtes rentré volontairement ou parce qu'on a jugé utile de votre entourage de vous y mettre ?
On m'a fait entrer, oui. Parce que j'avais des actes qui étaient plus ou moins... qui sortaient de l'ordinaire.
Qu'est-ce que je fais en pyjama à tourner entre ces murs blancs ? Appelez qui, implorez quoi, d'où je suis, personne n'entend. Toutes mes peines sont peines perdues. Je vis, mais ça ne compte plus, puisqu'ils m'ont rayé des vivants.
Alors, à Villejuif, eh bien, j'ai pu, en somme, faire le bilan à la Borde et le bilan Villejuif.
Comment ça se passe à Villejuif ?
C'est la discipline, la haute discipline. Je ne trouve que cette phrase-là pour l'exprimer.
Au lever, au coucher,
oui,
au repas,
fixe,
à la visite
Tout est organisé, coordonné, on ne peut pas faire de faux pas et c'est très embêtant.
Bah, ici, vous faites ce que vous appelez des faux pas ?
On fait des faux pas ici.
En quoi ça consiste ?
Ça peut consister en rigolade, en amusement, en refus de travailler, refus de participer aux activités des groupes.
Bah, toute l'organisation de l'établissement est fondée sur une participation, à différentes activités.
Des pensionnaires, oui.
Bon, vous avez, si je comprends bien, la possibilité de vous y dérober.
On a la possibilité de s'y dérober, oui.
Bon, vous êtes levé un matin du pied gauche.
Oui.
Au lieu d'aller apprendre l'anglais ou aller au groupe de la poterie, vous dites « je ne marche pas,
je reste au pieu ».
Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Il ne se passe rien du tout, on vous laisse au pieu tranquille.
Bon, et vous restez au pieu combien de temps ?
Bon, il y a certains qui restent jusqu'à midi tous les jours, d'autres c'est toute la journée.
Bon, et puis après, supposons qu'il soit resté une journée.
Oui, mais en général, l'individu se récupère très vite, il finit par y rentrer un jour ou l'autre dans le groupe. Enfin, dans...
Oui. Pourquoi ? Parce que c'est encore moins emmerdant quand même d'aller au groupe que de rester au pieu.
Mais bien sûr.
On a des copains ?
Oui, très, oui, de bons copains.
Ça compte ?
Ça compte énormément, oui.
Parmi les malades ou parmi les moniteurs ou les deux ?
Les deux. On peut faire des très bons copains aussi bien parmi le personnel d'encadrement que parmi les pensionnaires.
Alors, si on n'a personne après qui marronner, où est le plaisir ?
Mais on cherche.
Et on trouve quoi ?
On trouve un tas de choses.
Tout ça me donne à penser que vous n'êtes pas pressé de sortir.
Si, quand même, mais j'espère pouvoir revenir de temps en temps, c'est-à-dire venir passer des week-ends de temps en temps.
Pour ne pas perdre le contact avec les copains ?
Pour ne pas perdre le contact, pas spécialement avec les pensionnaires, mais surtout pour ne pas perdre le contact avec l'organisation.
Oui.
Ça retrempe, en quelque sorte.
Mais ça retombe pourquoi ? À cause de l'atmosphère de, sympathique, l'atmosphère d'amitié qui existe ici,
voilà,
ou bien quoi ?
À cause de l'atmosphère d'amitié qui existe entre moniteurs, enfin personnel d'encadrement et pensionnaires.
J'imagine que c'est aussi pour vous faire voir les médecins, non ?
Oui, on voit les médecins aussi.
Aussi.
C'est normal.
Mais ce n'est pas absolument l'essentiel, non ?
Ce n'est pas
absolument l'essentiel.
Le personnel d'encadrement, si vous voulez, est plus important pour la bonne marche de la clinique que les médecins.
En somme, vous donnez les 3 étoiles à la clinique de la Borde.
Je donne les 3 étoiles, oui.
C'était le point du 7e jour, préparé et présenté par Jean Rabaud. Assistante, Jacqueline Archambault. Collaboration technique, Robert Mazard, Catherine Cory.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 21 avril 1974. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour. Et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape.